Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal, c'est avec vous, Patience Ngalou-Lambombo.
Au sommaire de ce journal, célébration ce lundi 19 août de la Journée mondiale de l'aide humanitaire en RDC. Cette journée revêt une signification particulière en raison de l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires. Déclaration de Bruno Lemarqui, coordonnateur humanitaire en RDC. À Beni, la coordination locale des comités des élèves de Boutembo réclame la fermeture des écoles non viables et l'arrêt du mixage de finalistes après les résultats alarmants à l'examen d'État 2024. L'invité de ce journal est le président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, une ONG DH habituée à faire le monitoring des prisons congolaises. Emmanuel Adoukolé revient sur les libérations hebdomadaires des prisonniers de Makala par le ministre de la Justice. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le 19 août, c'est la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Dans son message à cette occasion, Bruno Lemarqui, coordonnateur humanitaire en RDC, souligne que cette année, cette commémoration revêt une signification particulière dans le contexte de la République démocratique du Congo en raison de l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires. 6 travailleurs humanitaires ont été tués et 11 enlevés entre janvier et juin de cette année, avec plus de 200 incidents ayant directement ciblé les humanitaires sur le terrain. Les souvenirs de nos deux collègues tués le 30 juin dernier lors de l'incendie d'un convoi humanitaire par des groupes de jeunes armés à Boutembo est encore vif dans nos esprits, dit-il. D'autres détails de ces messages avec vous, Jocelyne Moussaou.
Cette année, le thème choisi pour la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, Agir pour l'humanité, est un appel à l'action. Nous devons agir pour protéger les populations civiles et les humanitaires contre la violence, agir contre l'impunité des auteurs d'attaques contre les humanitaires et les civils, agir pour la paix. Lorsque nous échouons à protéger les civils et les humanitaires, nous mettons en péril les fondamentaux des droits humains, notamment l'accès à l'aide humanitaire aux personnes en situation de détresse, indique Bruno Lemarqui. Cette spirale de violence et de souffrance détruit les fondements de la cohésion sociale et de la paix. Elle détruit également les écoles et les centres de santé. Elle prive des milliers d'enfants du droit à l'éducation et des communautés entières de l'accès aux soins de santé. Au premier semestre 2024, environ 7,3 millions de personnes étaient déplacées en RDC, ce qui correspond à plus de 400 000 nouvelles personnes déplacées depuis décembre 2023. Cependant, le plan de réponse humanitaire pour 2024 est financé à seulement 35%, ce qui signifie que des centaines de milliers de personnes vulnérables sont laissées pour compte, s'inquiète le coordonnateur humanitaire en RDC.
En Ituri, le gouvernement doit renforcer l'effectif des militaires à la frontière avec le Soudan du Sud pour mettre fin à l'incursion à répétition de l'armée régulière de ces pays sur les sols congolais dans les territoires d'Arou. Cet appel est lancé ce dimanche par le député provincial Antoine Mopepe suite à la violation des frontières de la RDC il y a plus d'une semaine dans la chefferie des Kaliko, Omi. Une centaine de militaires en provenance de ces pays voisins se sont introduits dans les groupements Katsa et arrêter certains Congolais et réfugiés soudanais du Sud et piller plusieurs biens de la population. Isaac Remoyope.
Des militaires de l'armée régulière du Soudan du Sud, estimés environ 150 hommes, se sont introduits successivement les 5, 6 et 7 août dernier au centre commercial Kameroudé dans la chefferie de Kaliko Omi dans le territoire d'Arou. Ils ont tiré plusieurs coups de feu en l'air, créant une panique généralisée dans les milieux, déclarent des autorités coutumières locales. Ces militaires de l'armée régulière du Soudan du Sud ont arrêté pendant ces 3 jours au moins 11 personnes, dont 2 Congolais et 7 réfugiés du Soudan du Sud. Ces Congolais ont été libérés quelques heures après et d'autres réfugiés. 4 autres sont encore aux arrêts au Soudan du Sud, affirment des sources locales. Ils ont également emporté des vaches, chèvres, poules, des habitants et violé une fille originaire du Soudan du Sud. Pour mettre fin à la violation de l'intangibilité de nos frontières, le député provincial Antoine Mopepe demande au gouvernement de renforcer l'effectif des militaires à la limite entre les deux pays.
Nous recommandons au gouvernement de faire une cartographie sur cette partie de la limite de la frontière avec le Soudan du Sud et renforcer l'effectif afin de maintenir la sécurité dans cette partie, afin d'éviter ces incursions.
Des voix s'élèvent pour dénoncer la porosité des frontières du territoire d'Arou avec l'Ouganda et les Soudan du Sud, ce qui constitue une source permanente d'instabilité dans cette partie de la RDC. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les habitants des villes de Beni et Butembo ainsi que des territoires de Beni et Lubero, déjà lourdement affectés par l'insécurité, font face à une nouvelle épreuve, la dégradation des services de communication fournis par les réseaux de téléphonie cellulaire. Cette situation qui dure depuis 4 jours complique davantage la vie quotidienne des habitants et exacerbe les risques liés à l'insécurité dans une région où la connectivité est cruciale. Martial Papimoukeba pour les détails.
Sous la menace constante des groupes armés, les habitants de Beni, Butembo et Lubero s'appuient souvent sur les réseaux cellulaires pour alerter les forces de sécurité. Mais depuis 4 jours, la faible qualité du réseau est devenue un frein à cet atout. David Wambale, avocat et habitant de la région, partage sa frustration.
Nous nous trouvons dans une zone très insécurisée, au point que la téléphonie cellulaire se révèle être un outil plus qu'indispensable pour pouvoir communiquer et appeler le secours en cas de besoin. Malheureusement, on est dans l'impossibilité de joindre son correspondant. Nous sommes plus que déçus.
La dégradation des communications impacte aussi les services de santé, rendant les urgences difficiles à gérer, explique le docteur Baba Mutuza, responsable de la clinique Dieu et Grand de Beni.
Pour le personnel soignant, médecin de surcroît, c'est très compliqué. Quand vous devez gérer des urgences et qu'il y a des malades qui viennent, qui saignent, ou des malades qui ont connu d'accidents graves. On a besoin de vous au bloc opératoire, c'est encore plus compliqué à une femme, elle est grosse, on n'arrive pas à vous joindre, c'est la vie des gens qui est directement menacée.
Nous n'avons pas obtenu la réaction des responsables des compagnies de téléphonie cellulaire. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, 60 enfants mineurs sont retirés des groupes armés par le PDDRCS avec l'appui de ses partenaires. Information livrée le vendredi à Radio Okapi par le PDDRCS. Cette opération a été menée du 12 au 14 août dernier sur l'axe Kalemi-Bendera dans les territoires de Kalemi. Les points avec Paulin Munanga.
Le PDDRCS Tanganyika précise que sur les 60 enfants mineurs, il y a 40 filles et 20 garçons qui sont retirés des groupes armés des chefs miliciens Toa, dénommés respectivement Sarma, Elia et Béton, dans les localités de Kampunda à environ 35 km de Kalemi et qui sont déjà à 60 km au nord du territoire de Kalemi sur l'axe Bendera. Le programme précise que sur le site Kampunda, par exemple, la mission de vérification qui s'y est rendue a porté sur 24 présumés enfants associés aux forces ou groupes armés enrôlé dans le groupe armé du chef Toa Sarma. Et à l'issue de cette opération, 23 enfants mineurs, dont 13 filles âgées entre 7 et 17 ans, ont été certifiés. Ces enfants sont remis à l'Association des volontaires pour la récupération des enfants orphelins abandonnés et malnutris pour leur prise en charge avec l'appui de l'UNICEF, précise le PDDRCS. Signalons que dans la partie nord du territoire de Kalemi foisonnent plusieurs groupes armés parmi lesquels les Bilosé Bishambouké. Kalemi Pone Munanga, Radio Okapi.
Je le disais au sommaire, au Nord Kivu, après les résultats alarmants à l'examen d'État 2024 dans plusieurs écoles de la région de Beni, Butembo et Lubero, la coordination locale des comités des élèves de Butembo interpelle le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST. Dans une déclaration publiée ce samedi, elle appelle à la fermeture des écoles jugées non viables et exhorte les préfets des différentes écoles de la zone à mettre fin au système de mixage de finalistes, pointant du doigt également l'insécurité et les manques d'encadreurs qualifiés comme principale cause de cet échec. Jacques Tungela, coordonnateur de la coordination des comités des élèves de Butembo, explique au téléphone de Martial Papimoukeba.
Ce qui a causé la plupart des échecs dans la province éducationnelle Nord Kivu, il y a plusieurs des écoles qui ne sont pas viables. Les écoles sans bibliothèque, les écoles sans matériel didactique, les écoles sans bâtiment approprié, susceptibles à occasionner des échecs. Au regard de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Ministre, de fermer toutes les écoles non viables, les écoles sans bibliothèque, sans bâtiment approprié, sans permis de fonctionnement. D'interdire fermement le système de mixage des élèves d'une institution X à celle de l'institut Y pour former une classe qui sera délibérée comme s'ils avaient eu le même formateur.
Vous le savez, la rentrée scolaire 2024-2025, c'est déjà pour le 2 septembre. Dans les soucis de bien accueillir les enfants, le chef d'établissement du primaire et secondaire des écoles conventionnées islamiques du Maniema examine au cours de leur réunion préparatoire les forces et faiblesses de l'année passée en vue d'une amélioration. On écoute à ce sujet Yahya Bin Amissi Muslim, conseiller résident des écoles conventionnées islamiques, au micro de Florence Kizalunga.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'application du calendrier scolaire tel que signé par le ministre de l'Enseignement qui prévoit le 16 de ce mois une réunion préparatoire de chefs d'établissement avec leurs gestionnaires de proximité. C'est pour ça que je les ai réunis afin qu'on puisse voir le travail qu'ils ont réalisé au cours de l'année passée et préparer ce qu'ils doivent faire pour l'année prochaine. Nous voudrions voir est-ce que nos chefs d'établissement sont en mesure de jouer correctement leur rôle? Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses? Il y a ce que nous appelons indicateurs dans la réalisation des activités. Nous sommes en train de mesurer où est-ce qu'ils ont failli, quels remèdes faut-il donner pour que nous puissions répondre aux instructions officielles. Parce que nous gérons avec les instructions et nous ne devons pas être à l'encontre des instructions. C'est pourquoi nous les appelons ici pour renforcer leurs capacités, les outiller pour qu'ils puissent exercer correctement leurs tâches dans les écoles respectives.
Autre nouvelle, le ministre de Mines a visité ce week-end à Kolwezi dans les Lualaba l'entreprise minière Metalcol, une filiale d'IRJ Eurasian Resource Group. D'après le ministre Kizito Pakabomba, sa présence dans les installations de cette entreprise est de s'enquérir de ses réalisations et de son impact sur l'économie du pays. Pour Jean-Claude Sengawa Lubembe, le chef des opérations au sein des Metalcol, cette entreprise qui produit du cuivre et du cobalt récupère et révalorise les rejets déminérés. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Metalcol produit le cuivre et le cobalt. Metalcol est en train de retraiter les anciens rejets du concentrateur de Kolwezi qu'on appelait Kazetse en sigle. En son temps, la technologie qui était utilisée ne permettait pas de récupérer tous les métaux qui étaient contenus dans le minerai. Le rendement de récupération du concentrateur de Kolwezi avoisinait 60%. Donc sur les 100% du cuivre et du cobalt qui étaient alimentés, il y avait 40% qui étaient déversés dans les rejets. Et les rejets étaient déversés dans deux endroits. Premièrement, il y avait le bassin conventionnel de Kingamiambo où la Gécamine a déversé tout au plus 45 millions de tonnes de minerais avec une teneur en cuivre de 1,33 et une teneur en cobalt de 0,3%. Deuxièmement, la Gécamine a déversé le rejet dans la rivière Moussonoï, tout au plus 85 millions de tonnes de minerais avec une teneur en cuivre de 1,5 et une teneur en cobalt de 0,33%. Donc, au finish, la rivière a presque disparu. Et donc, parmi les objectifs de Metalcol, nous considérons que le projet Metalcol a un impact environnemental parce que à la fin du projet, la rivière sera totalement reconstituée.
Et puis, les rôles des jeunes dans la protection de l'environnement et l'éradication des boissons fortement alcoolisées pour la consolidation de la paix et le développement du Sud Kivu, c'est le thème au centre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, samedi 17 août à Bukavu. Activité organisée par les consortiums des organisations des jeunes du Sud Kivu, avec objectif de responsabiliser les jeunes quant à la lutte contre l'insalubrité et les antivaleurs. Rachel Kiesembangu, reportage.
Rappeler aux jeunes qu'ils sont aussi concernés par la protection de l'environnement et l'éradication des antivaleurs afin de participer au développement de la province, c'était le but. Jacques Bagouma, coordonnateur du consortium.
Il a fallu que les jeunes comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'implication de la gestion de la province de Kivu au travers la paix et le développement. C'est pourquoi nous sommes dit que cette journée ne devait pas se finir comme ça. On devait conclure cette journée par cette activité.
Les jeunes participants à cette activité ont pris l'initiative de poser des actions, lesquelles? Christian Bagenda Banga, l'un des participants.
Nous devons sensibiliser les jeunes en les disant qu'eux-mêmes ils sont acteurs de la protection de l'environnement. Nous devons aussi mettre en valeur tous ces déchets en plastique, parce que vous savez qu'il y a des entreprises qui sont chargées à transformer ces déchets. Donc nous allons faire le mieux possible pour recycler. Chaque samedi, nous devons faire un salon pour recycler ces déchets, mais aussi pour les jeunes qui consomment des boissons fortement alcoolisées. Nous devons faire le mieux possible en sensibilisant cette jeunesse, leur montrer que l'avenir ce n'est pas demain mais c'est aujourd'hui.
Signalons que le consortium a tenu une série d'activités en rapport avec la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année, notamment le Salongo et des sensibilisations. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le Sénégal a placé avec succès son premier satellite en orbite, a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye, jugeant que ce lancement marque un pas majeur vers la souveraineté technologique du pays. Nommé Gaindesat 1A, ce satellite a décollé depuis la base de lancement des Vandenberg en Californie, a indiqué les dirigeants sénégalais sur les réseaux sociaux X vendredi soir. Transporté par une fusée SpaceX Falcon 9, ce satellite fait partie d'une mission spatiale qui a permis d'envoyer depuis les États-Unis 115 autres petits satellites en orbite dans le cadre de la mission Transporter 11.
L'invité.
Les libérations hebdomadaires des prisonniers de Makala ne vont rien résoudre en ce qui concerne la surpopulation carcérale si les magistrats du parquet qui sont à la base de cette surpopulation demeurent impunis. C'est une alerte lancée par le président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, l'ONGDH habituée à faire les monitorings des prisons congolaises. Emmanuel Adou Kolé, qui Radio Kapi reçoit dans ce journal, salue la bonne volonté politique du ministre de la Justice de désengorger drastiquement la prison centrale de Makala, mais il estime que cela ne suffit pas et qu'il y a encore beaucoup à faire pour construire un véritable état des droits en RDC. Emmanuel Adou Kolé s'entretient avec Jeff Ngoy.
Emmanuel Adou Kolé, bonjour. Quel état des lieux pouvez-vous nous faire sur la situation carcérale à la prison centrale de Makala?
Bon, aujourd'hui, je peux vous dire que, avec la volonté du nouveau ministre de la Justice, Constant Mutamba, les choses commencent à être améliorées parce qu'il a amené les matelas, 2000 matelas, il a promis qu'il va commander 7000 matelas. Mais le problème de donner les dons matelas aux détenus, ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi l'installation des l'eau soit être établie parce que l'eau ne coule pas dans les prisons et vous trouvez un prisonnier qui peut faire une semaine, un mois sans être lavé et si vous lui donnez le matelas et que ces détenus ne se lavent pas, le matelas est abîmé. Et aussi comme le ministre a la volonté de désengorgement. Mais désengorgement entre de faire, mais même moment aussi on libère sans aujourd'hui.
Le même jour, il y a encore de nouveaux prisonniers qui sont envoyés en prison.
Donc il faut faire un monitoring pour que le dossier, le cabanan, on n'envoie pas en prison. Pour évacuer d'abord, désengorger d'abord les prisons avant d'amener les nouveaux. Et aussi, il faut lutter contre les arrestations arbitraires dans le cachot, clandestin, Demiab, Anes, CNS et ainsi et là.
Selon vous, le désengorgement auquel on assiste tous les jours ici, chaque semaine, 500 au moins. On en est maintenant à 1000 libérations et il veut atteindre 8000. Est-ce que cela constitue une solution durable à la problématique de la surpopulation carcérale?
Bon, désengorgement des prisons n'a pas la solution. La solution, c'est c'est-à-dire lutter très efficacement contre les arrestations arbitraires. C'est ça, parce que ce sont les arrestations arbitraires qui font en sorte que les prisons sous-populées. Parce qu'on peut libérer 800 ou bien 8000, mais après, à un certain temps, ça va dépasser les 8000. La société civile doit constituer partie civile pour porter plainte contre les ministres publics. Parce que c'est eux qui sont à la base des décès quotidiens dans les prisons. Parce que c'est le magistrat, c'est le parquet qui arrête et c'est le parquet qui libère. Donc, s'il y a sous-population en quatre ans, s'il y a le décès quotidien, c'est à cause des magistrats qui ne respectent pas les délais à laquelle le peuple congolais a confié. Au plus, comme le ministre, c'est un homme politique, on ne peut pas l'atteindre facilement. Maintenant, il faut chercher à atteindre le directeur de prison qui est gardien simple. Mais en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'un directeur de prison est menacé par un magistrat pour avoir libéré une personne qui est détenue arbitrairement ou bien illégalement.
Ce n'est pas le directeur qui libère. Ce n'est qu'un simple gardien de la prison après 1000 libérations. Est-ce qu'il y a une tendance à la baisse et la situation des cachots, d'où viennent tous ces détenus qu'on amène à Makala?
Mais vous voyez le cachot de la Gombe, où là se trouve le PG. Lorsque vous entrez dans cette cachot, bien qu'on ait été arrangé cette fois-là, mais à l'époque, vous dormez là-bas, Kafa commence à vous manger. Vous allez dans tout le cachot de Kalamu, c'est pire, à Matete, pire. Donc, la détention dans le cachot est tellement infrahumaine. On ne peut pas parler d'un état de droit. doit, c'est déplorable. Donc, je crois que nous avons beaucoup à faire pour que vraiment RDC devienne un état de droit.
Et ils sont maintenant combien à Makala?
Au Makala, le chiffre n'a pas bougé. Environ 15 000 parce que avec les Corona, avec les forces de progrès qui viennent d'être achetées, tout cela. Donc, je vais vous dire que les libérations des ministres n'ont pas dépassé 15 000. Donc, nous voulons que, comme lui-même a dit, pour faire en sorte que les prisons diminuent jusqu'à 5 à 6 000, tel qu'il était à l'époque. Parce qu'il y a l'étouffement aussi. Et avec le chalet qui va arriver le mois de septembre, en tout cas, si on ne fait rien dans les médias, on doit voir beaucoup de décès.
Est-ce que la construction d'une nouvelle prison ou des nouvelles prisons ne peut pas constituer aussi une solution à ces problèmes carcérales? Oui. Puisque cette prison-là a été construite à l'époque pour le ressort de Gombe, il n'y avait pas encore toutes les 24 communes que nous avons aujourd'hui.
Oui, mais le problème ne reste pas pour construire, parce qu'on parle souvent à Kinshasa, mais toutes les prisons dans la province, ils sont dans un détablement avancé. Donc, c'est la raison dans laquelle vous constatez que nous avons eu à Ituri, l'évasion spectaculaire, Grand Katanga, aussi Isuru, passé par là, il y a l'évasion et tout ça là. Ça cause le mauvais état de la prison. Donc, il faut aussi réhabiliter l'ancienne prison existante et il faut construire une nouvelle prison. Et aussi, il faudra que les prisonniers, ils doivent avoir une formation professionnelle.
Il n'existe pas de formation, un travail d'apprentissage à la prison. On y entre et on en sort sans avoir rien appris.
Tout à fait.
Emmanuel Adoukolé, je vous remercie.
Moi également.
Et c'est la fin de ce journal, préparé pour vous par Alain Irung et mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Merci à vous tous de l'avoir écouté.